retrouvé. J'ai quelque chose à vous dire ce matin. Il y a vraiment un message sur mon cœur. J'ai travaillé pendant 35 ans. Donc, je pense que je suis arrivé à comprendre peut-être quelque chose que certains d'entre vous ont mis moins de temps à comprendre, mais soyez indulgents avec moi. Et cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'ai vu une image sur Internet qui m'a marqué, parce que ça m'a rappelé quelque chose. Et pour ceux qui sont peut-être les plus âgés parmi vous, c'est-à-dire plus âgés à Créteil, c'est-à-dire quelqu'un qui dépasse 20 ans, regardez cette image qui a été prise en Syrie, dans la ville de Sarine, il y a de cela quelques jours. Bon, on entend beaucoup parler d'eux. C'est l'État islamique, l'armée Daesh, donc des intégristes de la charia. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui brûle. Ce sont des batteries. C'est ça qu'ils sont en train de brûler. La batterie Yamaha, qui est ici, là, la cymbale, c'est ça qui brûle. Ils sont en train de brûler des tambours, des batteries, des saxophones. Et regardez l'image d'après. Apparemment, ils en ont trouvé pas mal. Des grosses caisses, les musiciens parmi nous, là, ils ont mal au cœur. Mais tant que c'est des batteries, vous allez dire, c'est pas grand-chose. Regardez l'image d'après. Là, c'est quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de jouer du synthétiseur. Et donc, il a des coups de fouet, ils ont des coups de fouet pour avoir joué de l'instrument qui n'est pas conforme au respect de la loi de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est la grâce assassinée. La grâce assassinée. On lit le verset de Jésus. La grâce assassinée. Voici ce qui est écrit, c'est toujours sur le PowerPoint. Matthieu 12, verset 7. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour les uns envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Seigneur Jésus, parle-nous, parce qu'on a plein d'idées dans notre tête, on a tous des opinions parfois tranchées, mais je voudrais que ce soit la lumière du Saint-Esprit. Ce que l'on pense savoir, Seigneur, éclaire-le. Seigneur, tu as parlé aux pharisiens et tu leur as dit « si vous aviez compris cette parole ». Seigneur, peut-être il y a des personnes ici qui sont venues dans ce lieu et qui pensent avoir compris beaucoup de choses de toi. Ose, Seigneur, franchir nos barrières et parle-nous en profondeur, au nom de Jésus. Fais grâce. Amen. Amen. 35 ans de ma vie, et ma vie a commencé dans une famille formidable, rigoureuse, famille chrétienne. Et ma maman m'a élevé avec des principes. Il y en a ici qui ont été élevés avec des principes. Fais pas ci, fais pas ça. Et je dois avouer que cette éducation stricte, cette discipline, m'a protégé de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de tentations. Parce que je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait pas faire. Dans un domaine tout bête, mais essentiel, parce que c'est le choix de la vie, notamment de l'être cher, l'être aimé, ma maman est née dans une famille, elle, dans laquelle sa mère avait fait un mauvais choix de mariage. Contre son avis, elle, puisque ma grand-mère était une chrétienne depuis longtemps, dans une église baptiste, elle savait ce qu'était vraiment le projet de Dieu pour sa vie, mais contre l'avis des siens, contre l'avis de son église, contre l'avis de son pasteur, elle avait épousé un beau jeune homme. Mais qui s'est avéré être quelqu'un de très dur à vivre, et l'a prié pour sa conversion toute sa vie. Et c'est vraiment sur son lit de mort seulement que mon grand-père a donné son cœur au Seigneur, tardivement, très tardivement. Avec beaucoup de tristesse, beaucoup de... Voilà. Bon, je suis là quand même, je suis content. Mais ma maman m'a dit, toi tu ne feras pas la même erreur. Hein. Alors elle m'a élevé avec l'idée que je ne devrais pas refaire les mêmes erreurs que les autres avant. Il y en a qui ont été élevés comme ça. Je ne suis pas le seul dans la salle. Hein. Alors regardez l'idée. On va lire un texte dans le livre de la Genèse. D'accord ? Dans le livre de la Genèse. Et vous allez chercher le chapitre 4. L'enfant strict et discipliné que j'étais a réussi à tenir et à respecter la loi de Dieu. Vous savez comment ça se dit, respecter le chemin qui respectent la loi de Dieu. Comment ça se dit dans les différents... En anglais, faudrait voir, walk quelque chose. En espagnol, je ne sais pas. En arabe, ça se dit charia. Respecter le chemin pour respecter la loi de Dieu, ça se dit charia. Vous savez que là, on est presque gêné parce qu'on ne sait pas si on doit dire amen ou pas. Parce que si je l'avais dit sans dire charia, qui c'est qui veut respecter la loi de Dieu? Amen! Qui veut respecter la charia? Non mais attendez, vous n'allez pas me dire que c'est juste parce que c'est en arabe que ça devient un problème. Alors on est gêné quelque part et je vais vous pousser au maximum. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se regarde face au miroir pour remarquer. Qu'est-ce qui de nous est de la grâce? Et qu'est-ce qui est la loi? Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas été longtemps dans une église, je vais vous donner les deux définitions de base. Qu'est-ce que le principe de la loi face à Dieu? Le principe de la loi, c'est plaire à Dieu par des efforts, une discipline, une rigueur personnelle pour respecter les commandements de Dieu. Ça, c'est l'origine de la loi. D'accord ? Et les deux tiers de la Bible expliquent ce principe. Ça commence à partir du livre d'Exode, deuxième livre de la Bible, où Moïse va avoir la révélation et va parler de la loi, de respecter les lois de Dieu. Et ça arrive jusqu'au livre de Malachie. Et après, vous avez un deuxième système qui est proposé par Dieu qui s'appelle la grâce, qui commence au chapitre 1er de l'évangile de Matthieu et qui vous parle de quelqu'un qui est venu et qui est un don gratuit de Dieu, qui apporte le salut gratuitement. La définition de la grâce, c'est un don immérité que Dieu fait aux hommes. Donc conclusion, la loi, c'est je fais des efforts pour respecter et pour plaire à Dieu. Ça, c'est la loi. La grâce, c'est Dieu fait des efforts pour m'aimer. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui fait des efforts. Mais dans la loi, c'est l'homme qui fait l'effort. Dans la grâce, c'est Dieu qui fait l'effort. Vous êtes toujours là?
Amen.
Regardez, je vous amène quelque part. J'étais élevé comme ça, très carré. Et plusieurs d'entre vous, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, vous avez peut-être été dans une église qui a eu des débats en interne sur la musique, la batterie, le synthétiseur, le foulard, le boudin noir, le shabbat, ou pas, la tenue des femmes, les cheveux longs ou pas, le pantalon, et plein d'autres trucs, parce qu'en général, la loi des hommes est illimitée, et leur intelligence, au dépit. Mais il y en a beaucoup. Et tous ont un point commun, c'est qu'ils sont persuadés que ça plaît à Dieu. Et j'en ai fait partie, de ces convaincus de la loi et de respecter la loi de Dieu. Je vais vous dire, j'étais en l'an 2000, j'étais fidèle au Seigneur, j'étais dans une église classique, et je pouvais dire que peut-être certains copains avaient abandonné Dieu, mais pas moi. À 20 ans, je pouvais dire, je ne suis jamais sorti avec aucune autre fille. Jamais, aucune fille. C'est pas les tentations qui ont manqué. Mais je me suis gardé nickel. Même pas donné la main, même pas un bisou, rien du tout. Par rapport à la musique, je savais ce qu'était une musique du monde et une musique de Dieu. Alors quand je suis arrivé à Bordeaux en 2000, pour un grand rassemblement de jeunesse, pendant qu'il y avait justement un autre rassemblement à Avignon, j'étais là-bas, Optima 2000, Nico, non. Bon. Et nous, on était les nordistes, on était ensemble, on essayait de chercher vraiment la face de Dieu. Il y avait un pasteur qui venait d'un pays froid, qui s'appelle le Canada, il s'appelait Marc Lecomte. Plus tard, on a appris qu'il était président de l'Institut du Québec, là-bas. Mais Marc Lecomte a prêché, bon, ça m'a fait bizarre, il a prêché un message. Son titre, c'était « L'enthousiasme ». Déjà, je me suis dit, ça part mal. Ça fait très distraction, tout ça. Ça va certainement manquer de profondeur. Et quand même, au fur et à mesure de son message, il m'a quand même convaincu, parce qu'il m'a dit, vous ne pouvez pas être contre l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme vient du mot « entheos » en grec, qui veut dire « en Dieu ». Donc si tu n'es pas enthousiaste, tu as un problème. Bon, d'accord. Mais à la coupure publicitaire de la réunion, vous savez, là, quand les gens ils chantent, à la coupure publicitaire, le truc, il ne sert à rien. il y a un certain Manu Bolomi qui est arrivé. Voilà, on va rapper pour Jésus. Et là, c'est pas possible. Parce que rapper et Jésus, ça va pas ensemble. Je sais quoi ton truc. Toi, tu fais le show. J'ai écouté les premières notes. Il a relooké au Happy Day. Moi, c'était pas Happy Day, c'était je me casse. Je suis sorti, j'ai dit franchement, on va laisser les charlatans et les gens qui n'ont rien compris à la droiture et à la sanctification, je vais les laisser là où ils sont. Et moi, je vais vraiment chercher Dieu dehors. Je suis parti dehors. Et il y a un pasteur qui a eu pitié du pharisien que j'étais. Il m'a coursé quand même. Il m'a dit, pourquoi tu t'en vas, mon gars? Alors j'ai pu vider mon sac. Il a attendu patiemment que je dise tout le mal que je pouvais de tous les mauvais chrétiens qui étaient dans le bâtiment. Et j'ai fini par rentrer, juste pour montrer que j'étais fort. Et je pense que s'il y avait eu des batteries, et il y en avait, j'aurais été pas contre qu'elles brûlent. Oh. J'étais un enfant de la loi. Et je pensais avoir compris la grâce de Dieu. J'appliquais la charia chrétienne. Genèse 4. On va lire l'histoire de deux frères. Le grand 1, c'est la cohabitation entre la grâce et la loi. Et le grand 2, le deuxième aspect qu'on verra aujourd'hui, c'est lorsque la loi agresse la grâce. C'est pour ça que ce sera la grâce assassinée. On est parti, Genèse, verset 1er du chapitre 4. Vous êtes là ce matin ? Suivez-moi, je sais que tout le monde ne va pas comprendre tout de suite, ou tout le monde ne va pas être d'accord, et j'accepte l'idée que vous ne soyez pas d'accord. Mais vous examinez si ce que je dis est exact. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Vrai. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. On s'arrête là pour l'instant. Allez, premier point, lorsque la loi et la grâce cohabitent. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, Caïn est un enfant de la loi. Caïn représente la loi dans ce texte. Et Abel représente la grâce. En fait, le livre de la Genèse, vous avez remarqué, c'est le seul livre que je n'ai pas cité tout à l'heure. Parce que la loi va de l'Exode à la fin de l'Ancien Testament, Malachie, et la grâce commence avec Matthieu, et finit à l'Apocalypse. Donc toute la Bible est balayée sauf un livre, le livre de la Genèse. Ce livre de la Genèse est prophétique. C'est l'histoire du monde avant et après. Et c'est comme si Dieu, dans la Genèse, prend des caractères, des personnages, et explique ce qui va se passer. Et c'est étonnant parce qu'après la chute dans le jardin d'Éden, il dit, on va vous donner deux systèmes. On va vous donner un premier système, le premier-né sera le système de la loi. Et le deuxième enfant sera l'enfant de la grâce. Parce que la loi vient avant la grâce. Vous allez me dire, mais pourquoi tu peux te permettre de dire ça par rapport à Caïn et Abel? Pourquoi? Parce que regardez comment Caïn fonctionne. Caïn, je vais dire deux choses. Premièrement, donc on est d'accord, c'est un cultivateur, quelqu'un qui va travailler par ses efforts, qui va faire produire de la terre des légumes et des fruits, alors que cette terre est maudite. Alors que Dieu a dit, tu tireras les produits de la terre à la sueur de ton front, il y aura des chardons et des épines, et ça fait partie des malédictions de la terre. Et ça prendra des semaines et des mois après avoir mangé de la poussière, avalé tout ça, que tu pourras commencer à voir un fruit ou un légume qui sort. Et Caïn a relevé ses manches et s'est mis au boulot. En fait, la loi commence toujours par opposition, écoutez ça, à l'échec des autres. On ne commence pas à faire la loi sans avoir avant un problème pour les autres. D'ailleurs, toutes les lois en France sont souvent réaction à un fait divers et c'est pour ça qu'on crée une loi. Mais ça commençait déjà au jardin d'Éden. Parce que lorsque papa et maman n'ont pas été capables de rester dans un jardin qui était parfait, parce que papa était faible, moi Caïn, je vais devoir compenser et maintenant travailler dans la sueur et travailler encore parce que ces deux Linus qui étaient avant moi n'ont pas été capables de profiter de la bénédiction de Dieu comme il se doit.
Et comme ils ont été faibles et que papa a dit « Oh oui, pourquoi pas chérie ?» Eh ben moi, je vais devoir remettre les pendules à l'heure. Et je vais devoir suer là où les autres ont fait que cueillir des fruits. Et la loi, dans mon cœur et dans les églises, vient de ce que les autres n'ont pas été capables de faire certaines choses. Et ça crée un sentiment de... En plus, quand c'est élevé par une maman, il y a des mamans dans la salle. Si, je vous ai parlé de ma maman qui avait essayé de faire un système différent. Mais les mamans, elles analysent ce qu'il y a avant et puis elles élèvent l'enfant en disant « Toi, je vais essayer de te réussir. » Et surtout quand c'est l'aîné. Et quand maman Ève a donné naissance à Caïn, elle a dit « J'ai formé un homme !» Et Cana, c'est, ça a donné Caïn, veut dire produire, créer, faire quelque chose. C'est comme si maman Ève a dit « Je vais faire quelque chose pour changer le système parce que on s'est raté avec mon mari, mais le prochain qui vient, on va l'élever dans la discipline, il va travailler, il va faire des efforts et il aura des fruits. Et il va compenser, il va inverser la malédiction où la terre ne produit rien, et bien lui, il va en sortir quelque chose. Et ça sera un cultivateur. Et le premier, l'enfant de la loi, est quelqu'un qui, par ses efforts, essaye de plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Caïn, par ses efforts, va apporter une offrande à l'Éternel. Et il va arriver vers l'Éternel en disant « Ça, c'est moi qui l'ai produit par mes propres efforts. Ça m'a pris des mois. » Il a dit au bout d'un certain temps, cette verset d'après, Caïn présenta une offrande à l'Éternel. Parce que les légumes, mes amis, ça ne sort pas en un jour. Et il a travaillé et travaillé encore. Mais il a travaillé par opposition. Quelle est ton éducation? Est-ce qu'elle est stricte? Elle est rigoureuse? Est-ce qu'elle est remplie de commandements? Est-ce que tu as été élevé avec « faut faire, faut pas faire » C'est certainement que tu as une maman comme Ève, qui peut-être a analysé les failles des autres ou ses failles à elle, et qui a dit « pour toi, ma chérie, je vais te donner les valeurs qui vont te permettre de ne pas vivre mon échec. » C'est comme ça qu'est née la loi. Et je vais aller plus loin pour terminer sur la loi, la présentation du système de la loi par rapport à Caïn. J'ai formé un homme, un vrai, parce que le premier, mes amis, c'était une chic molle. Le premier homme, le gars, il était, il cueillait, il faisait rien. On lui disait, tu prends chéri, oui. C'est toi que tu as mangé, attends, tu as mangé, fait, non, mais c'est la femme qui m'indique. Là, on en a un bon, un vrai. Un militaire. Pas comme le premier qui joue à la PlayStation toute la journée et qui est collé devant sa télé et qui fait rien de sa vie. Et lorsque Caïn grandit, il arrive à produire du fruit. Écoutez ça, écoutez ça. La loi, ça marche. À court terme, en tout cas, la loi, ça marche. Et dans les églises les plus légalistes, ça marche. Non, vous comprenez pas. Daesh, ça marche. L'État islamique marche là où tous les hommes n'arrivaient pas avant. Ils arrivent à avoir une police, une rigueur, là où ça marchait pas avant. Où c'était le bazar, où c'était les bandits. Pourquoi les gens se tournent vers Daesh? Parce que ça apporte une sécurité de l'armée qu'ils n'avaient pas. Parce que si tu voles, t'as la main coupée. Si t'as pas le tchador, t'es flagellé en pleine rue. Et vous savez pas quoi dans les églises évangéliques? Ça marche aussi! Et sur internet, ça marche! Tu fais une prédication sur les hauts talons, tu fais une prédication sur le voile, tu fais une prédication sur donne ça, 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 ça c'est mauvais, ça Dieu te dit c'est un faux! Et les gens regardent. Parce que c'est clair et ça permet de dire nous on va pas faire les erreurs des autres! Et Caïn a eu du résultat et je vais vous dire. À la sanctification par la chair, par les œuvres, ça marche. Et moi, je suis un enfant de ça et ça a marché, mes amis. J'étais super dur. Je ne tolérais jamais rien. Devant mes yeux, j'appliquais la Bible à fond. S'il y avait un commandement que je ne respectais pas, j'étais mort, mort de trouille que Dieu me punisse. Et dans les églises, on a inventé. Et c'est pour ça que de là viennent presque toutes les dénominations. Parce que chaque église invente le commandement que les autres n'ont pas vu. On va respecter le Shabbat, on s'appellera des adventistes. Parce que nous, on revient à la loi, la vraie. Et puis, il y a un autre qui va dire, oui, mais il y a ça, 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 qui va dans les mauvaises églises, et ça fera le chouacotisme, ou je ne sais pas quoi. Après, il y en aura un autre, ça sera les baptistes. Un autre, ça sera les pentecôtistes. Un autre, ça sera... Et chaque dénomination va voir ce qui ne va pas chez les autres, et va dire, voilà le commandement qu'ils ont raté. Et mes amis... Et c'est... Le résultat n'est pas trop mal. Le résultat est formidable, il est même très bon sur les gars. Et laissez-moi vous aller jusqu'au bout et après vous m'enverrez les emails que vous voudrez. Mais sur les gars, je pense que les jeunes gars, et surtout les gars célibataires qui sont remplis d'hormones, la loi c'est très efficace. Je pousse à l'extrême, c'est une forme de castration spirituelle qui est très efficace. Et c'est pour ça que les églises les plus légalistes, elles gardent plus leurs gars. Oh. Vous savez, ça m'a pris 35 ans à voir ça. Mais les églises légalistes, plus vous êtes dur, plus vous tapez fort, et plus vous aurez des gars militaires qui arriveront par leur trouille et le fait de bien respecter les règles. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose chez le gars, chez le mec, qui a envie de dire « Je vais faire quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai gagné quelque chose. » Je vais être direct avec vous. Mais les églises les plus strictes progressent là où il y a le plus de fautes morales. Je suis désolé avec mes amis antillais, je vous aide de tout cœur. Mais il y a quand même un problème avec le sexe aux Antilles. C'est marrant, mais c'est là que les églises les plus strictes, les adventistes, les évangéliques les plus tradis sont là. Parce que la loi propose une solution, et les jeunes gars, ça marche. Et aujourd'hui, à Paris, en Ile-de-France, où il y a plein de tentations, une église stricte qui prêche excessivement durement contre le péché, les distractions, et bien quelque part, elle te bloque, elle te met en cadre. Et elle fait qu'en toi, que jeune gars, je dis... Toi, tu n'es pas comme les autres, tu ne vas pas te souiller. Et je ne peux pas trop condamner la loi parce que je suis né de ça. J'ai vécu, j'ai grandi, ça m'a élevé et ça m'a protégé. Puis d'un côté, je vois les enfants de la grâce et ça m'énerve. Les Abel. Déjà Abel. Ça paraît tout doux déjà. En mal, il est avec les brebis. Abel en hébreu, ça veut dire souffle. C'est pas j'ai formé un homme, c'est formé un Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit que Abel lui aussi a présenté une offrande. Une offrande de quoi? Ces petits agneaux, des agneaux, et ben des brebis. Attendez, expliquez-moi là. Moi, j'ai retourné la terre, le champ, j'ai enlevé les pierres une à une. J'ai tapé, j'ai sué. Et je suis allé vers l'Éternel en disant, Seigneur, ça, ce sont mes efforts. Et toi, l'autre Abel, il est là, il regarde, il s'installe. Il fait, coucou, 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 les petits. On est l'heure de manger. Il les amène dans le pré, c'est pas lui qui leur donne à manger. Les brebis, elles broutent. Puis après, les brebis se multiplient entre elles. Le gars, il regarde. C'est cool, ils vont faire un joli petit agneau, celle-là. Il ne fait pas d'insémination artificielle. Hein. La grâce, ça se reproduit tout seul. Le gars, il regarde. Être berger, c'est quoi? Tu les protèges, tu les aimes. C'est tout. Une fois que tu les as protégés, que tu les as aimés, la grâce, elle regarde. Elle contemple l'œuvre de Dieu. Oh, merci Seigneur. Encore 4 brebis de plus aujourd'hui. Parce que ces 4-là, quand elles seront grandes, elles vont m'en faire 12 de plus. Et ainsi de suite. Et la grâce, tu constates, mais sans rien faire. Mais tu mérites quoi, Abel? Mais tu mérites rien du tout, oui. Tout est grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Afin que personne ne puisse en glorifier. Ah, vraiment, c'est un peu simple cette histoire. Et Abel va apporter à l'Éternel son offrande. Jusque-là, il y a une cohabitation. Vous êtes là? Deuxième point, le choc. Lorsque la loi va détruire la grâce. Parce que tant que les deux systèmes marchent, en fait, la loi, elle est basée sur la comparaison avec les autres hommes. Écoutez bien ça. La loi, elle est basée sur la comparaison. Je fais ça différemment de l'autre qui fait mal. La grâce, elle est comparaison vis-à-vis de Dieu. Et tu perds à tous les coups. La grâce, tu dis, Dieu, t'es tellement plus grand. Tu m'as aimé le premier, je vais essayer de t'aimer en retour, mais je ne pourrai pas te rendre ce que tu m'as donné. Donc la grâce, elle est comparaison vis-à-vis de Dieu. Tu n'as pas de jugement sur les autres. Alors que la loi, elle dit, je ne vais pas faire ce que l'autre a fait. Et quand Caïn va vers Dieu, c'est là qu'il y a un petit problème. Regardez, on lit ensemble. Verset 4. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais c'est la suite qui est gênante. Mais pas sur Caïn et sur son offrande.
On relit là. L'Éternel porta un regard sur Abel et sur son offrande. Le gars, il n'a rien fait. Enfin, il a amené les premiers-nés de son troupeau. Mais je veux dire, il n'en a pas fait naître une seule des brebis. La nature fait que les brebis sortent toutes seules. Et Dieu dit, j'accepte. Alors que moi, Caïn, qui est trimé, qui est sué, j'apporte à l'Éternel mes fruits. Et il est dit que l'Éternel ne porta pas un regard. Ah là là. Dieu, il faut que tu m'expliques. Il y a une arnaque qui part. C'est pas possible, Seigneur. C'est injuste. Pour vous réveiller, dites injuste. Injuste. Parce qu'au fond, quand tu as travaillé, tu t'attends à ce que Dieu te regarde au moins de façon favorable, non? T'es fidèle aux réunions, est-ce que c'est normal que Dieu te bénisse? T'es fidèle en ta dîme, est-ce que c'est normal que Dieu te bénisse? T'es fidèle par rapport à tes enfants, c'est normal que tes enfants réussissent? Ouais, il y a un petit truc bizarre dedans. Vous êtes là encore? Bon, on va juste analyser pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Abel est arrivé vers Dieu et il a dit, Dieu, tout ce que j'ai, c'est à toi, en fait. J'ai rien fait pour. Je peux juste te dire merci. Donc, plutôt que t'amener un certain nombre de moutons, ce que je vais faire, comme tu m'as tout donné, je vais choisir que la première part, les premiers-nés seront pour toi, Seigneur. Et c'est ça la mentalité de la grâce. C'est dire, Seigneur, tout ce que j'ai me vient du ciel. Ma famille, mon emploi, mon logement, tout me vient de Dieu. Mes finances me viennent de Dieu. Et la première part, je vais avoir la joie de dire la première part reviendra à celui qui m'a tout donné. Et avec le reste, je vivrai. Dans l'abondance, mais je donnerai la première part. Vous voyez ce que j'ai dit? Je vais être concret. La loi, elle parle de la dîme. D'accord? La dîme, il est dit, la loi de Moïse, et c'est quelque chose qui est tout le temps, à tous les chapitres presque de la loi, vous le voyez, tu apporteras 10% de tes revenus à la maison de l'Éternel. Mais en fait, il était quelque chose qui était dit au tout début, avant la loi dans la Genèse. Et c'est d'ailleurs l'argument que l'apôtre Paul va donner. Bien, avant la loi, Abraham a déjà apporté la dîme. Vous savez, à Melchisédek. Mais il a apporté comment? Il a dit, avant même que je prenne quoi que ce soit, le premier fruit sera pour Dieu. Alors, la loi va focaliser sur le pourcentage, alors que la grâce va travailler sur les motivations de ton cœur. Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que le premier fruit de Dieu? Vous êtes toujours là? Et quand l'apôtre Paul va un peu plus loin parler, il va dire quoi aux Colossiens? Parce qu'on peut dire, est-ce que la dîme existe dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Il y a un seul passage où l'apôtre Paul dit des choses, c'est assez intéressant. Il dit quelque chose, il dit, chacun de vous, le premier jour de la semaine, le premier jour, vous voyez, c'est un peu la même idée toujours d'eux, tu commences par lui, mettre à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Que chacun, le premier jour, dise, Dieu, je te sers en premier. Waouh! Il ne parle pas de la dîme. Il n'est pas en train de dire combien tu dois donner. Il est dit que c'est l'abondance de ton cœur, ta prospérité, que tu vas dire, Seigneur, j'ai reçu beaucoup, je donne beaucoup. T'as un cœur à donner beaucoup, tu donnes beaucoup. T'as un cœur à donner pas beaucoup, tu donnes pas beaucoup. Mais en fait, on est dans une logique où tout est grâce. Et Dieu, vous savez, Dieu, il n'est pas pauvre, ni riche. Mais il regarde ton cœur. Et du coup, t'es jugé par le montant que tu donnes? Eh ben non, en fait, t'es même pas jugé par les autres. Dans ce que c'est que le don avec Dieu, l'offrande d'Abel, t'es pas jugé par tes frères. T'es pas jugé par ton pasteur, par ton église qui doit calculer combien tu donnes. T'es jugé par rapport à ta conscience vis-à-vis de Dieu. Et ça regarde personne d'autre. Mais la pression, tu l'as pas vis-à-vis des autres, tu l'as que vis-à-vis de Dieu. Eh, mais vous savez pas quoi? Vous pouvez aussi faire comme Adam. Et ne pas accepter la grâce. Adam, lui, il a jamais rien donné. Adam, il a dû se dire, franchement, je suis pas sûr de finir ma vie, vu qu'elle va durer longtemps, je vais jamais faire une offrande. Il y a pas un endroit où on voit que Adam apporte une offrande à l'Éternel. Lui, il a fait que cueillir les fruits, il a jamais donné. Mais vous voyez, ça c'est la mentalité, c'est pour ça que j'appelle ça la mentalité PlayStation, quoi. Je fais rien, je reçois, je glandouille, je suis mou. Et tu peux faire ça aussi avec tes finances. Donc en fait, il y a trois systèmes. T'as le système d'Adam, la mollesse, je fais rien, et puis si un jour il reste quelque chose, je donnerai peut-être à l'Éternel.
T'as le système de la grâce, le premier service c'est l'éternel, t'as le système de la loi, faut que je donne ça. Bon, je ne vais pas donner 10,2%. C'est pas nécessaire. Mais 10,00, pile. Normal, il y a pas censé, j'ai pas marqué d'amen là. Non, c'est normal. Cain arrive et il dit, Dieu, je t'amène les fruits. Je t'amène les légumes, les carottes, tout ce que je t'ai amené. Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur? J'étais fidèle. Seigneur, j'ai assuré quand même. T'as vu la malédiction, hein? Jusqu'à présent, Dieu, c'était toi qui as nourri mon papa. Et bien, pour la première fois de l'histoire, alors que toi, tu donnais des fruits à mon père gratuitement, Dieu, pour la première fois de l'histoire, c'est moi en tant qu'homme qui vais t'apporter les fruits. Yes! Ok? Quand tu es dans la loi, tu es fier de toi. Et quelque part, tu es fier de tes réussites, de tout ce que tu as. Quand je parle de ce jeune gars que j'étais, je me suis retrouvé à 24 ans, toujours célibataire, frustré à mort, mais célibataire devant Dieu. Et je pouvais dire, Seigneur, tu vois ton fidèle serviteur. Je n'ai jamais donné la main à une inconvertie. Jamais. Je n'ai jamais démarré une relation. Et pourtant, j'étais tenté, Seigneur. Mais j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Psaume 73, pour ceux qui ont des références. Je disais, Seigneur, comment ça se fait? C'est où elle est ma part? Oh, tu commences à être en retard sérieusement, le ciel. J'espère que tu regardes favorablement mon offrande. Et là, le coup de théâtre, Dieu. Dieu, il vient, il regarde l'offrande, et il porte un regard favorable sur celle d'Abel et pas sur celle de Cain. Là, Cain, il a la mauvaise. Là, non. Et il dit dans son cœur, c'est pas juste. J'étais fidèle. Vous savez pourquoi les gens quittent une église? Ils quittent une église pour la même raison que Cain. Ils quittent une église parce qu'ils se disent, Dieu, j'ai fait ma part, t'as pas fait la tienne. Je ne comprends pas pourquoi, alors que j'étais fidèle, il n'y a pas de regard favorable. J'ai prié pour que ma mère guérisse, elle n'a pas guéri. Dieu, je considère que tu n'as pas fait ton job. Alors, je te dis, c'est pas juste. Et je pars. Et je laisse ma colère, parce que c'est ce qui va se passer. Il est dit que Cain sentit un sentiment de colère quand il veut que Dieu ne fait rien. Que Dieu n'est pas juste dans le système de la loi. Ça le rend fou de colère. Et Dieu lui dit, mais Cain, attention, fais-tu bien de te fâcher. La colère... La violence est tapis à ta porte. Vous savez, la loi, elle fonctionne que par la violence. Quand ils ont brûlé le pilote jordanien, vous savez pourquoi ils ont brûlé le pilote jordanien? Parce que le pilote jordanien a balancé des bombes dans leur tête. Et donc les bombes, ça faisait brûler les maisons. Alors ils ont dit, œil pour œil, dent pour dent. T'as brûlé, on te brûle. C'est la loi de Dieu. C'est la charia. Ça fait peur, hein? Et on a le même système dans toutes les religions. Naturellement, le cœur de l'homme retourne à la loi. Naturellement. Et Cain dit, c'est le fruit de mon labeur. Et Dieu dit, non. Je vais porter un regard favorable sur Abel. C'est intolérable. Vous savez, dans Romains, il y a un verset qui est pareil, c'est choquant. Il est dit, car il est dit à Moïse. Et Dieu l'avait dit à Moïse. Dieu avait dit à celui qui allait mettre en place la loi, il a dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de celui de qui je veux avoir pitié. Verset 16, cela ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Vous savez ce qui se passe? La colère du fils aîné, de celui qui a été fidèle. Vous connaissez le fils prodigue? On parle, on dit la parabole du fils prodigue. Franchement, déjà on met son nom dans le titre, alors que ce gars-là, il n'a rien fait de sa vie. Le mec, il a cramé l'héritage, il a quitté l'église quand il était jeune, il a mené la grande vie, il a fait la fête avec toutes les femmes du monde, il revient, il se pointe un jour comme un clochard à la maison, et là, le père dit, eh ben on va faire la fête pour lui. Alors que moi, j'étais fidèle toutes ces années, et j'ai jamais eu une seule fête. Et le père vient voir Cain, et le père vient voir le frère aîné, et lui dit, tous mes biens sont à toi. Si tu avais demandé simplement un jour de fête, je te faisais tout ce que tu voulais. Mais dans ta mentalité de légaliste, tu n'as jamais voulu faire la fête parce que tu es allé tous les jours bosser pour essayer de me plaire. Mais tu sais pas quoi? Je t'aime non pas parce que tu bosses pour moi, mais parce que tu es mon fils. Non, mais je bosse quand même! Oui, mais c'est pas ça qui est déterminant! Mais alors, c'est quoi? T'as jamais compris la grâce, hein? Et tu laisses la colère te monter. Et c'est pareil, Jonas devant Ninive. Quand Dieu dit, je pardonne à la ville. Non, mais Dieu, n'importe quoi. Je viens me taper 3 jours à crier. Tu m'as fait me faire bouffer par une baleine ou un je sais pas quoi cachalot. Tu m'as vomi sur le sable pour me ramener dans cette ville. Tu m'as dit, ils vont être détruits. Et toi, tu changes ton plan. Tu dis, c'est pas grave, je pardonne. C'est quoi ce pasteur super cool, là? Et Dieu dit à Caïn, pardon, à Jonas, mais c'est pareil, fais-tu bien de te fâcher pour ce dessin qui t'a coûté rien du tout. Moi, j'aurais pas pitié de tous ces gens-là qui sont en train de mourir, qui sont pas sauvés, et des animaux en grand nombre. Verset 8. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La grâce est assassinée par la loi. Ce jour-là, c'est une préfiguration de ce qui se passera à la croix lorsque les pharisiens, voulant appliquer la loi de Dieu, vont crucifier le Christ. Ces juifs pratiquants, intégristes et hyper carrés vont fauter la crucifixion. C'est exactement pareil ce qui se passe. Mais écoutez bien ce qui va se passer. J'ai une révélation tout à l'heure en prêchant au premier culte. Et où est-ce qu'il a amené? Où est-ce qu'il a tué Abel? Où est-ce que Caïn, sur quel terrain Caïn a amené Abel? Dans les champs. C'est comme si là, je disais, viens Thomas. T'es mon frère. Eh bien viens, on va aller voir le champ. Tu vois, regarde, hein, tu vois là, ton grand frère, il a sué sur toute cette rangée-là. D'accord? Tu reviens? Hein, toi, t'as rien fait. Là, il y a des poireaux, des carottes, j'ai fait ça. Hein? D'accord? Là, viens, viens, ne pars pas. Regarde, Abel, regarde. Tu vois, là. Ça m'a pris 3 mois, ça. Et hein, tu vois, là, j'ai des cicatrices, des brûlures à la peau. Hein? Parce que toi, t'étais en train de te planquer derrière ton buisson. Ben, moi, je faisais ça. Hein, t'as un chrétien facile, toi. Ben, moi, j'ai galéré. Tu vois. Et ben, ça prend. Et c'est là que Caïn tue. Vous avez compris le système? Vous avez compris le système? Il a mis au champ pour dire ça. Là, c'est mon célibat pendant 10 ans pour le Seigneur. Là, c'est ma dîme et même plus que ma dîme pendant toutes ces années. Ouh, ça m'a coupé. Et je l'ai fait pour Dieu, hein? Me dites pas que je l'ai pas fait pour Dieu, parce que je l'ai amené à l'Éternel. Et ça, tu vois, c'est tout ce à quoi j'ai. Cette mutation, j'y ai renoncé pour être fidèle dans mon église. Et ça, j'ai. Wouh! Ça monte. Et c'est là que tu as la colère. Et tu tues et tu assassines ma grâce. Alors, mes amis, je me suis dit, parce que je préparais cette méditation, je dis notamment pour nos jeunes gars qui sont les plus tentés par ce système de ce raccourci de la loi qui est très efficace. Je me dis, est-ce qu'ils ont le choix forcément entre les deux, soit la glandouille de Adam, ou soit la discipline de Caïn? Est-ce qu'on a le choix dans les églises qu'entre le n'importe quoi et le légalisme? Je lui dis, Seigneur, fais qu'il y ait quand même une génération qui se lève et qui vive la grâce. Mais on ne profite pas de la grâce pour faire n'importe quoi. Je voudrais juste vous donner des textes extraordinaires, parce que moi ça me parle quand je vois l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, il était allé, c'était le premier qui allait en Turquie. La Turquie, c'est tous les villes de la Galatie. Et il écrit une lettre aux Galates. Et moi, j'entends la voix de Paul, mais qui pleure lorsqu'il écrit des choses aux Galates. Il est dit, aux Galates insensés. Mais qui vous a envoûté? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix était clairement dépeinte à vos yeux. Je vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Et puis un peu plus loin, Galates 9, il dit, à présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Je ne dis pas que les enfants de la loi sont perdus, je dis qu'ils sont dans la loi et que Dieu les aime.
Mais il dit, se peut-il alors que vous reteniez, que vous retourniez à ces principes élémentaires, toutes ces règles, quoi, sans pouvoir ni aucune valeur, pour devenir à nouveau des esclaves, vous observez les jours spéciaux, c'est là les Shabbats, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Puis au verset, au chapitre 5, il dit, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon, ne vous laissez pas réduire de nouveau à l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous faites circoncire. Ouais, parce qu'il y a un moment, ils se sont dit peut-être que pour avoir moins de tentations sexuelles et pour être plus carré devant Dieu, on va se faire juif. Dans les synagogues, vous savez, c'était les femmes en haut, les gars en bas. Comme ça, les gars, ils ne peuvent pas reluquer les femmes. Pas de problème de décolleté dans les synagogues. La loi, ça a des avantages. Ils poussent jusqu'au bout. Il a dit, mais allez, vous voulez vous faire couper? Coupez-vous alors. Et il dit, mais... Hey, vous savez que l'apôtre Paul, c'était un pharisien à la base. Moi aussi, je suis né de Benjamin. Circoncis le huitième jour. Hein? Et il dit, l'apôtre Paul, il dit, moi, Paul, je vous déclare, si vous, les chrétiens d'origine païenne, vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Je vous l'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Waouh! Quant à nous, notre espérance est d'être déclarée juste devant Dieu par moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous courriez bien, mais qui vous a détourné? Moi, j'hallucine parce que, moi qui viens d'une église hyper légaliste, je vois des personnes qui sont nées à Créteil dans cette église et j'en ai baptisé plein. Et il y a une tentation, et c'est normal, je vous comprends. Parce que la loi est plus efficace que la grâce, elle est plus violente et elle met tout le monde KO plus vite. Et je vois cette tentation, c'est normal, c'est une crise d'ado en fait. Quand on est né dans une famille cool, on a envie de remettre des règles. Et du coup, ceux qui sont nés dans le Créteil, c'est l'église de la nouvelle chance. Le soir, on peut regarder Beansport et un match de foot à la télé, c'est juste génial. Ouais, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait des distractions dans la maison des deux? Et ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas les guerres. Bref, je vais pas commencer à prêcher là-dessus. Mais il y a toujours ce combat-là. Et je vois des enfants de la grâce dire, ah, mais la loi va me permettre de mieux me protéger de mes tentations. Et quand l'apôtre Paul dit, il le dit à un autre endroit, c'est une autre traduction possible, quand il dit, vous vous faites couper là, moi je vais vous dire, allez-y jusqu'au bout les gars. Vous voulez vraiment être sous la loi? Ben coupez-vous complètement, venez eunuque, comme ça il n'y a pas de risque. Si vous coupez tout, au moins vous serez mieux. Et c'est une surenchère. Ben, vous savez, les cathos, ils ont inventé les monastères pour ça. Hein. Et on peut aller. Parce que la loi, c'est nos limites. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Caïn veut appliquer toute la loi et n'empêche qu'il va fauter sur la colère. Vous voyez? Mais c'était pas marqué dans la loi qu'il fallait pas être en colère. Il n'y a que dans le Nouveau Testament où on parle de la colère. La colère dans l'Ancien Testament, il y a des colères saintes. Et même certains vont justifier le fait que Jésus s'est mis dans une sainte colère. Il s'est mis dans une sainte colère, pourquoi? La chose qui a mis Jésus en colère, c'est que des personnes commencent dans le temple. Et là, pour le coup, c'était un temple physique, c'était pas comme une église comme aujourd'hui, parce que il n'y avait pas eu la résurrection de Christ et le Saint-Esprit n'était pas venu dans les cœurs. Et quand les marchands du temple faisaient ça, c'est qu'ils escroquaient les pauvres en disant, tu sais, pour être pardonné, il faut que tu amènes une tourterelle. Hein? Mais la tourterelle, ça va être 400 euros la tourterelle. Ah, j'ai pas l'argent. Ah ben, il n'y a pas de tourterelle pour toi. Eh ben, il n'y a pas de pardon pour toi. Je suis désolé. Et c'est ça qui rend Jésus fou de colère. C'est qu'ils utilisent la loi pour empêcher les gens d'être pardonnés. Mais me dites pas que Christ a défendu la loi parce qu'il s'est fait, il est mort pour ça. Et il était mort, il était assassiné par des gens qui pensaient absolument bien faire. L'apôtre Paul, lorsqu'il a assisté à l'exécution d'Étienne, dit, J'étais là, droit dans mes bottes, et je regardais, et j'approuvais. Et j'approuvais. Et lorsque je suis sorti de Bordeaux 2000 et que j'ai dit Manu Bolomique, franchement, je me demande s'il est sauvé, j'approuvais si Dieu pulvérisait son instrument de musique en direct. Il y a quelque chose là. Je dois terminer. Vous savez ce que dit Cain, dernière pensée. Ce que dit Cain, il dit oh là 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 là, qu'est-ce qu'un temps passe vite ici. Et c'est un rabbin qui me l'a montré. Là, vous allez. Moi, j'ai appris quelque chose, j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Cain va répondre. Lorsque Dieu revient, lui dit où est. Une fois qu'il a assassiné son frère, d'accord. Qu'est-ce que Dieu dit à Cain? Où est ton frère Abel? Il lui demande pas où est ton offrande. Il lui demande où est ton frère. Où est le gars qui est à côté de toi et que j'aime comme toi? Et Cain répond, suis-je le gardien de mon frère? C'est bizarre comme réponse. Pendant des années, j'ai lu ça, j'ai dit, c'est bizarre. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et le rabbin m'a expliqué ça. En fait, ce que Cain a dit, c'est Dieu. C'est qui le gardien de les hommes? C'est toi? Moi, j'ai fait mon job, Dieu, lorsque j'ai fermé mon offrande. Toi, Dieu, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est veiller sur les êtres humains. Tu as dit que tu nous gardais. Eh bien, Dieu, tu ne nous as pas gardés. Et quelque part, si la grâce est morte, eh bien c'est de ta faute. On n'a que ce que l'on mérite. Là. Eh bien c'est un truc de fou. Il vient de tuer son frère. Et le seul remarque qu'il a, c'est de dire, vous savez, je ne suis pas si coupable que ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas fait sa part. Et là, Dieu dit, tu dégages. C'est fini pour toi. Et même pas, il dit, je vais t'empêcher de mourir. Je vais te donner la possibilité de vivre et je vais même te protéger avec une marque sur ton front. Mais il va y avoir toute une génération qui va partir au milieu de nulle part. Et c'est une génération de la loi. Une génération qui vit dans la frustration et qui vit dans la colère parce qu'elle n'arrivera jamais à appliquer assez de règles pour survivre. Et, ce qui est, et lorsque Christ est à la croix et qu'il meurt, assassiné par des religieux qui appliquaient strictement, et je pense qu'il y aurait eu des pasteurs qui auraient voté. Vous savez, j'ai une chose à vous dire. Je suis pasteur maintenant des Assemblées de Dieu, que j'aime beaucoup comme mouvement, c'est assez strict, mais bon, j'aime beaucoup ce mouvement, et j'y suis pasteur depuis maintenant, c'était en 2000, donc ça fait 15 ans cette année. Ok, 15 ans que je suis pasteur. Depuis maintenant 9 ans, j'ai accès à des huis clos. Huit clos, c'est les petites conventions, les passeurs, c'est pour les affaires chaudes. Et j'ai remarqué quelque chose de terrible. Mais c'est vrai dans tous les systèmes humains. Quand il s'agit d'exclure quelqu'un, l'armée de la loi se mobilise très bien. C'est incroyable. Dans les huit clos, quand il y a une exclusion, il y a tous les capots de la loi, ils sont là. En pensant bien faire, je dis capot, mais ils pensent bien faire, ils pensent faire selon Dieu. Ils obéissent aux ordres du roi des rois pour voter l'exclusion. Et vous savez où sont les enfants de la grâce? Ils sont en train de prendre un café, souvent dehors. Ils sont là en disant, ah, oh, on passe une belle journée. Merci Seigneur pour le café. Et ils votent pas. Et les gars sont massacrés. Il y a des ministères qui sont des fois brisés. Et les gars de la grâce, ils se ramènent après en disant, oh. Et oh, combien avaient été guéris par Jésus? Combien avaient été guéris par Jésus? Des centaines! Combien étaient dans la cour du temple à 5h du matin quand il était condamné à mort? Personne! Où sont les enfants de la grâce? Ils glandouillent dans leur lit et Dieu ne leur envoie même pas. Mais voyez, les pharisiens, ils étaient tous mobilisés. Tac, tac, on y va en vote! Quand il faut répondre à Pilate, on crucifie ou pas? Crucifie! Crucifie! C'est carré! Ça fera 2500 vues sur YouTube en une demi-heure! Parce que c'est pétillant, c'est croustillant, il y a du chaud. Et lorsque
Lorsque je vois ça, je me dis, mais c'est terrible. Et Christ a accepté, la grâce a accepté d'être assassiné comme Abel. Et il est dit que par la foi, Abel plut à Dieu. Et en acceptant, c'est terrible ça, j'aurais voulu que la grâce soit... Mais je suis désolé, c'est si ton ennemi te frappe, vous comprenez, c'est énervant. La grâce est énervant. Mais c'est le système divin. C'est le système où tu as zéro mérite, où tout vraiment vient de Dieu, il n'y a que Dieu. Et l'homme, l'être humain, il est vraiment plus qu'une poussière dans la grâce. Il est là en disant, Seigneur, ma vie est super courte, je peux faire le maximum pour toi et le maximum pour les autres. J'aimerais le Seigneur de mon Dieu, de toute mon âme, de toute ma force et mon prochain comme moi-même. Et j'ai tout accompli quand j'ai fait ça. Et quand Christ meurt, ça prend quand même 3 jours, ça doit cogner fort dans le ciel et dans l'enfer. Et le 3e jour, il ressuscite. Et il dit, avant de mourir, il dit, tout est... Non. Comment c'est possible? On ne peut pas accomplir la loi en entier. Parce que la loi, c'est nos limites, il y a toujours une règle de plus. Non, Christ à la croix dit, je ne suis pas venu, avant il avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et regardez le texte de Romains 13. C'est tellement fort ça, Romains 13. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Ne restez redevable, verset 8, de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Ça, c'est le décolleté dans l'Église. Tous les autres se trouveraient capitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Car celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi de Dieu. Et excusez-moi, je dois aller plus loin. Et l'apôtre Paul dit, attention, je vous en supplie, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tira sa fin. On arrive à l'époque où Jésus va revenir. Je crois au retour de Jésus. Et ce qui m'énerve, c'est que je ne veux pas avoir que le choix entre les Adam qui pensent à rien et les militaires qui tuent n'importe qui. Je veux croire qu'il y a une voie de la grâce. Et l'apôtre Paul l'a cherché, cette voie. Et il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il le dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il commence à dire, je sens que la vie de l'Esprit me donne la capacité de tenir. Parce que si je ne dis pas ça en quittant de ce message, je ne te donne pas la vraie solution. La solution de la grâce, Christ est mort. Et dès qu'il est mort, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'aide, le Paraclète. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La grâce ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Vous savez, le Nouveau Testament est obligé de vous dire, laisse le Saint-Esprit. Parce que naturellement, dès que tu auras un conflit dans ton couple, et que tu te prends la tête avec ta femme ou avec ton mari, et que tu vois ce joli cœur là, qui après t'avoir mal parlé, il va vers Dieu et puis il est tout bien là.
Merci Seigneur, merci, gloire à toi.
Et toi ça te rend folle, tu dis mais quoi? Il est bien avec Dieu alors qu'il te traite comme ça? Et ça met de la colère en toi. Si tu laisses pas le Saint-Esprit travailler, tu t'en sortiras jamais. Tu laisses le Saint-Esprit qui va te dire, mais attends, oh, je t'aime et je suis avec toi. Ta justice, c'est pas toi qui vas de la faire. Tu vas pas rentrer dans la comparaison et de la loi. Reste avec moi, Cain. Tu as la possibilité de dire non à la loi, la grâce, la capacité de résurrection. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vous ai donné votre esprit qui vous donne la capacité de vivre. Oui, les œuvres de la chair, les beuveries, les orgies, la débauche, le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Tout ça, ça fait pleurer le cœur de Dieu. Mais je vous en supplie, y a-t-il des enfants de la grâce qui pourront faire mieux et plus pur et plus de sanctification que les enfants de la loi, mais avec une autre motivation derrière, juste de dire, c'est grâce. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense. Proclame la justice, Jésus, c'est la grâce. Et du coup, tu te mets devant Dieu. Juste les musiciens, dans un instant, vous allez revenir. Mais juste attendez un instant et... Ce bonhomme là de 24 ans qui est au Texas, c'est moi, je suis dans un banc là, et je suis en train de me présenter devant Dieu mon offrande, et je dis, Dieu, quand même, tout ce célibat pour toi, c'est beau, ça te fait quelque chose quand même, Seigneur. Franchement, je suis fait traiter quasiment d'homosexuel à la fac pour toi. J'espère que ça t'a touché quand même. Eh bien, t'as vu mes tentations, Seigneur. Tu m'as aidé, merci. Mais j'ai tenu. J'ai dit, Seigneur, elle sera comment ma femme?
J'attends mon cashback, Seigneur. Et j'ai une pensée de Dieu qui tombe sur moi. Il me dit, et si je t'amène une femme qui a été en couple pendant des années avec un inconverti, ou qui était chrétienne, qui était rétrograde, et qui a un enfant. C'est à moi que tu parles, Seigneur. Vous savez, là, excusez-moi, on applique toujours la grâce dans les domaines dans lesquels on est mauvais. Si vous êtes nul dans vos finances, vous vivez par la grâce. Si vous avez un mauvais caractère, vous connaissez la grâce. Mais si vous avez un sujet de fierté, c'est là où c'est dur, la grâce. Et moi, je suis là, Seigneur, j'ai mal entendu ou quoi? Une femme avec un enfant. Mais tu m'as vu, Seigneur? Ça ne le fait pas. Et je suis, le pharisien en moi sait qu'il répond mal, mais il répond quand même mal. Et là, je lis ma Bible et je tombe, ça c'est drôle, Seigneur, il est bon. Hein. Je tombe sur ce, vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a la nappe qui tombe du ciel, ce que j'ai déclaré pur. Qui es-tu pour le déclarer comme impur? Et là, j'ai écouté la Bible avec mes oreillettes et par erreur, je l'ai fait. Retour arrière, mais sans le faire exprès. Parce que j'attendais vite que ça passe, quoi. Et je réentends ce que j'ai déclaré pur. Qui es-tu pour le déclarer impur? Et là, je me suis mis sur les genoux. Et j'ai dit, Seigneur, si je suis resté célibataire, tout ça, si ça m'a coûté autant, et que ma femme un jour vienne avec un enfant, je choisis. Oh là là, ça fait mourir un pharisien, ça. J'ai dit, Seigneur, je te dirai merci. Pour qui elle est, parce que les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu m'as pardonné mes péchés. Tu lui pardonnes ses péchés. Alors je vivrai. Non. Le Saint-Esprit est celui qui m'a pardonné et qui pardonne aussi. Ne me dites pas que c'est facile la grâce. C'est extrêmement difficile d'aller au magasin. Et quand j'ai décidé ça, il s'avère que Dieu m'a donné Nathalie. J'ai même pas osé lui poser la question. Et Nathalie m'a dit, tu sais, j'ai jamais eu d'autre chéri que toi. C'est cool. Mais c'était plus déterminant. Vous voyez ce que j'ai dit? Dieu, il m'a testé, il m'a challengé jusqu'au bout. Et en fait, honnêtement, ça fait pas de différence. Et je me suis posé devant Dieu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dire que la grâce de Dieu parle beaucoup mieux que tous les discours de la loi entendus sur la terre. Fermez les yeux ensemble. Je te demande d'examiner ton cœur. Il y a ici des hommes et des femmes formidables. Parce que je voudrais dire que Dieu aimait Cain. Et Dieu aimait Abel. Et il aime, ici, peut-être une jeune fille, un jeune gars ou quelqu'un de plus âgé, qui a tenu des années en se mettant des principes très rigoureux. Et Dieu te dit, je suis fier de toi. Mais est-ce que tu accepterais de reconnaître que ce n'est pas par tes propres mérites, c'est parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre sans que tu le saches? Te protéger. Est-ce que tu comprends qu'à la croix, il a lavé toutes tes fautes? On va prendre la Sainte Cène maintenant. Gardez les yeux fermés. Je demande aux personnes d'essayer de ne pas tarder de venir vite sur le devant. Et on va examiner nos cœurs. Gardez les yeux fermés. Regardez toute personne. Là maintenant, pendant l'appel, je vous pose une question. Hommes et femmes dans cette salle. La Bible dit qu'avant de prendre le pain et le vin, tu t'examines toi-même. Je ne demande pas au pharisien qui est en toi de t'examiner. Parce que lui, il crucifie dans tous les cas. Je ne demande pas à Adam de t'examiner parce que lui, il est tout mou et il fait comme tout le monde. Je demande à la fille de grâce, à l'homme de grâce qui est en toi. Qui travaille avec le Saint-Esprit et dire Seigneur, qui la première place dans ma vie. Est-ce que c'est le péché à qui j'apporte les premiers fruits? Si tu as une situation de péché en cours que tu ne veux pas régler, que tu ne veux pas changer, reste à ta place. Parce que tu es en train de donner dans ce domaine-là la première place au péché et le Saint-Esprit te travaille. Mais pour toi, homme ou femme, qui a décidé de suivre Jésus aujourd'hui, je ne parle pas de ton baptême il y a 10 ans, je parle de aujourd'hui. Alors que les personnes désignées commencent à se préparer et à prendre le pain et le vin, toi, est-ce que tu prends la Sainte Cène ou pas? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, chose en bas, chose en haut. Rien ne peut nous arracher l'amour de Christ.
Parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
Nous ouvre la voie, confiant nous à
d'Afrique, de France, on a le même Seigneur qui est mort sur la même croix pour nous apporter un même évangile de grâce. Garde-nous dans la grâce, que nous ne profitions pas de la grâce pour faire n'importe quoi. Protège-nous du péché. Garde-nous dans une sanctification grâce au Saint-Esprit. Protège-nous du jugement des autres. Garde-nous dans l'humilité à titre personnel. Et prends soin, parce que c'est ton bon plaisir.